Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
Bonjour et bienvenue à tous dans Une heure en France avec un Tour de France pour commencer ce vendredi. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tournier, un Tour de France des France Bleues avec le regard de chaque station dans votre région sur le mouvement des Gilets jaunes un an après. La carte de France est donc votre France Bleu est sur francebleu.fr.
Après cette année éprouvante, la gendarmerie a-t-elle plus de mal à recruter ? Nous serons avec un major pour la campagne d'information concernant les officiers. Et puis un autre Tour de France est au programme, celui des maisons d'écrivains d'Aragon à Zola, chacune avec leur histoire. Nous aurons aussi notre instant douceur avec l'histoire des nounours. Je sais que ça vous fait plaisir, ça, Denis. Comment sont nés les ours en peluche qui accompagnent les enfants et pas seulement ?
Les gilets jaunes vus par France Bleu, les gendarmes, la demeure des écrivains et les nounours, on est prêt, on y va jusqu'à 14h.
Et on commence avec les infos du jour, c'est avec Nicolas Balu.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Ça va mieux dans le sud-est ?
Oui, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Après les chutes de neige d'hier et de cette nuit, parmi les bonnes, plus aucun département n'est en vigilance orange, neige et verglas. Les restrictions de circulation sont partiellement levées. Les mauvaises nouvelles, un homme est mort en Isère hier, tué par la chute d'un arbre. 330 000 foyers sont privés d'électricité. La Drôme, l'Isère, l'Ardèche, le Rhône sont particulièrement concernés. Et puis si vous prenez la voiture, la circulation reste très difficile. Le trafic ferroviaire est aussi très perturbé, notamment autour de Lyon, Grenoble ou Saint-Etienne.
Oui, et certaines écoles n'ont pas ouvert ce matin.
Oui, exemple en Isère, à Bourgoin-Jallieu, le collège privé Saint-Michel n'a pas pu accueillir les élèves, Nina Valette.
Oui, chaussures de montagne aux pieds, bonnet vissé sur la tête et pelle à la main. Jean-Baptiste Ballon, le directeur, tente de faire un chemin au milieu de la cour pour éviter les accidents.
Tout le monde n'est pas forcément équipé avec des bonnes chaussures, donc pour éviter d'avoir les pieds trempés et de tomber malade en plus, on déneige. On utilise les bonnes volontés de chacun et j'ai des enseignants qui étaient à Bitibourgouin et bien qui sont venus ce matin pour donner un coup de main pour essayer de régler la situation.
C'est ceux qui sont en train de tirer là ?
Oui, alors là, c'est des personnes qui travaillent pour l'établissement, mais les enseignants, comme on n'a plus que quelques élèves, je leur ai demandé de rentrer chez eux.
Quand d'un coup,
le courant est revenu.
La lumière fut, mais trop tard pour l'établissement, impossible d'accueillir les quelques 500 élèves dans des conditions optimales.
Pas d'électricité, tous les repas sont perdus, donc ça finit effectivement à la poubelle. C'est l'équivalent de 490 repas.
Les parents, alertés tant bien que mal, puisque le téléphone ne marchait pas jusqu'à présent, arrivent au compte-gouttes.
Ce matin, je l'ai déposé vu qu'il y avait une perturbation des bus. Et là, on m'a contacté pour me dire qu'il n'y a plus d'électricité, qu'il faut que je vienne chercher mon fils.
Pas de cours et de la neige plein le jardin. Voilà de quoi faire des heureux.
Nina Valette de France Bleu Isère. On apprend qu'Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, sera dans la Drôme en fin d'après-midi. Toujours dans la Drôme, les dégâts sont catastrophiques à Romans-sur-Isère, affirme la maire de la commune, Marie-Hélène Toraval.
Le froid s'installe avec son lot d'accidents et d'intoxications au monoxyde de carbone.
Oui, par exemple, dans le Loiret, dans un immeuble de Montargis, 4 personnes, dont un nourrisson de 7 mois, sont en urgence absolue. Le bébé a été transporté à l'hôpital Necker à Paris. L'intoxication serait due à la condensation due à la pluie cette nuit qui aurait fait sortir un tuyau de son logement. Il aurait libéré du monoxyde de carbone dans tout le bâtiment.
Un important incendie s'est déclaré ce matin dans l'usine Oscar Lab à Bernin, près de Grenoble.
Oui, le personnel d'un site voisin classé Seveso a été confiné une partie de la matinée. L'incendie a fait un blessé. Les Gilets jaunes tentent de se remobiliser un an tout juste après le début du mouvement. Les autorités attendent plusieurs milliers de personnes à Paris et parmi eux des manifestants radicaux. La mobilisation a déjà commencé puisqu'une centaine de Gilets jaunes ont bloqué une usine chimique classée Seveso à Montoir de Bretagne en Loire-Atlantique. Ils ont été délogés par la police.
Nous faisons un tour de France des France Bleues dans un instant avec les 44 regards des France Bleues. L'image que chaque station dans votre région retient de cette grande sociale, ce mouvement sans précédent qui a commencé il y a un an.
Une carte à ne pas manquer. L'affaire Epstein, la police élargit ses recherches. Un appel à témoins international est lancé aujourd'hui pour retrouver de nouveaux témoins et victimes.
Jeffrey Epstein est ce financier américain mort en détention à New York cet été.
Il était soupçonné d'avoir abusé sexuellement de nombreuses jeunes filles mineures. Jusqu'ici, 8 femmes se sont déclarées à la justice. Après un premier appel à témoins uniquement en France, l'Office central pour la répression des violences aux personnes lance cet appel à témoins en français et en anglais. Les explications de Philippe Guichard, son patron.
Nous avons constaté, après avoir entendu un certain nombre de témoins et de victimes dans ce dossier, que les victimes ou les témoins avaient un peu de mal à nous identifier et du coup à déposer. Donc au regard du volet clairement international, de la sensibilité du dossier, du fait que ça touche le milieu du mannequinat qui est plutôt un milieu fermé, on a pensé qu'il fallait que la parole se libère véritablement au niveau français et international, et donc que la meilleure solution c'était de relancer un appel à témoins en français et en anglais, puisqu'on recherche à la fois des victimes françaises, des victimes étrangères susceptibles d'avoir été violées ou agressées par des Français ou par des étrangers, et éventuellement des auteurs français également. On travaille, comme vous le savez, sur Jeffrey Epstein et sur son environnement.
Philippe Guichard, le patron de l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences, joint par Stéphane Père.
Tollé ce matin après le vote des députés au sujet de l'huile de palme.
L'huile de palme, un biocarburant, en tout cas pour le moment, il doit être effacé de la liste des biocarburants. Les biocarburants de cette liste bénéficient d'un avantage fiscal.
Oui, sauf que les députés ont voté hier le report de cet effacement à 2026.
Et oui, c'est la victoire de Total, s'insurgent les écologistes notamment. Un second vote pourrait avoir lieu dans les heures qui viennent. Des députés de la majorité et de l'opposition réclament un nouveau scrutin. Le temps, cet après-midi, il n'y a donc plus de département en vigilance orange à la neige. Le temps va être très pluvieux sur une moitié nord-nord-est, mais aussi du Pays Basque aux Bouches-du-Rhône. Quelques chutes de neige sont à attendre dans les Hauts-de-France.
Oui, 4 degrés à Lille cet après-midi, 5 à Dijon et à Valence, 7 à Villeneuve-sur-Lot, 8 à Uzès dans le Gard où nous allons passer ce midi à propos des nounours, Frédéric. 12 à Toulon. Merci Nicolas Ballu. Après le Tour de France météo, le Tour des France des France Bleues arrive après le début du mouvement des Gilets jaunes.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel.
Si vous êtes sur la route, prudence. Paris et sa petite couronne sont en vigilance jaune en raison d'un risque pluie-inondation et d'un risque neige-verglas. Je vous signale un accident sur la 3 direction Paris en raison d'un carambolage au niveau de Noisy-le-Sec. 3 voitures sont impliquées. Prudence car la voie de droite est fermée à la circulation. Vous êtes retardé d'une vingtaine de minutes à partir du Blanc-Ménil. En revanche, ça circule mieux sur l'A86 intérieure avec cet accident maintenant dégagé au niveau de Bobigny. Du coup, vous circulez beaucoup plus fluidement. Dans votre transport en commun, c'est perturbé sur la ligne 12 du métro en raison d'un incident d'exploitation et sur la ligne 6 dans le sens Étoile Nation.
Un an après le début du mouvement des Gilets jaunes et alors que 69% des Françaises jugent le mouvement justifié et que des blocages sont en cours, on vient de l'entendre, nous vous présentons avec le rédacteur en chef de France Bleu la carte de France, un an de Gilets jaunes. Bonjour Léopold Strajnik.
Bonjour Denis.
Un an de Gilets jaunes sur France Bleu, ça veut dire 44 façons de voir les choses.
Ouais, c'est l'occasion de regarder dans le rétroviseur, dans chacune de nos stations, dans chaque région, parce que France Bleu, vous le savez, a couvert cette mobilisation au plus près de l'événement, au cœur des manifestations, dans les cortèges, sur les ronds-points. Ça n'a pas toujours été facile, c'était parfois très tendu, et on va y revenir. Et le résultat qu'on découvre sur cette carte, sur FranceBleu.fr, eh bien, c'est 44 nuances de gilets jaunes, 44 histoires de ce mouvement, qu'on a parfois caricaturé. Il s'affiche sur cette carte dans toute sa diversité, avec ces zones d'ombre, les violences, la théorie du complot parfois, mais aussi sous le visage de la solidarité et de l'entraide. C'est la variété de ces manifestations qui saute aux yeux. Et c'est pour ça qu'on a intitulé, vous l'avez dit, ce dossier 44 regards. C'est un regard par station.
Alors parfois, c'est une personnalité qui émerge, un lieu emblématique ou une situation. On commence à Paris parce que l'Arc de Triomphe a marqué tout le monde.
Oui, c'est l'image qui a marqué France Bleu Paris. Et on le comprend, de toutes les violences perpétrées lors des manifestation parisienne, eh bien c'est la plus symbolique. Ces images, elles ont choqué à Paris, mais aussi partout ailleurs, partout en France. Un saccage en règle de l'Arc de Triomphe. La statue, souvenez-vous, de Marianne à l'intérieur du monument a été en partie détruite. Et Tommy Cataneo, le journaliste qui a couvert cette manifestation qui dégénère, eh bien il raconte cette ambiance de chaos sur FranceBleu.fr.
Alors un autre exemple à Nice, c'est une photo de Geneviève Leguet, un drapeau à la main, un drapeau marqué paix.
Ouais, une photo très marquante, en toile de fond on y voit derrière le drapeau eh bien les colonnes de CRS. Geneviève Leguet, le 23 mars, souvenez-vous, lors d'une manif de gilets jaunes à Nice, elle est bousculée par une charge policière, elle est blessée et elle sera hospitalisée pendant près de 2 mois. Elle deviendra du coup le symbole des violences policières dénoncées par les gilets jaunes et pour l'anecdote, Geneviève Leguet, on la retrouve des mois plus tard, parce que c'est une militante altermondialiste, et on la retrouve fin août au Pays Basque, au sommet anti-G7, et là on mesure à ce moment-là sa popularité.
En Haute-Savoie, France Bleu Pays de Savoie a capté ce moment rare sur un rond-point. Des gilets jaunes ont dansé autour d'un feu de palette alors qu'il fait encore nuit. Et ça, c'était juste avant d'être délogé du rond-point qu'ils occupaient depuis un mois. Et ça, c'était au mois de décembre 2018.
Ouais, c'est vrai que c'est une image, on croirait qu'elle sort d'un rêve un peu cette image. Hein. Il y a ce brouillard, il y a cette musique. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est de lire le témoignage du reporter qui découvre ça avec
Richard
ses yeux,
Vivion.
Qui s'attend absolument pas effectivement à vivre cette scène.
L'image retenue par France Bleu Isère vous a marqué, Léopold Strajnik, et pour cause, vous étiez présent sur place. Ça s'est passé devant la radio, devant France Bleu Isère à Grenoble. On ne comprend pas forcément de quoi il est question. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, faut rappeler que la radio à Grenoble, France Bleu Isère, a été incendiée dans la nuit du 27 au 28 janvier. Très vite, les gilets jaunes sont mis hors de cause. Mais il faut se souvenir qu'à ce moment-là, au sein du mouvement, les relations sont très tendues entre les médias et les gilets jaunes. Et c'est dans ce contexte que les gilets jaunes se retrouvent le samedi suivant, quelques jours après cet incendie, devant les locaux de la radio dévastée. Une manifestation donc de soutien qui tranche évidemment avec le climat de tension.
Alors une dernière image parmi les 44 images ou vidéos sur francebleu.fr. Captez celle-là à Cherbourg. Alors, qui applaudit il y a un peu plus d'un an à Cherbourg? Qui applaudit qui?
Là encore, c'est une image très surprenante. Le 27 novembre, donc les gilets jaunes de Cherbourg parviennent à empêcher l'embarquement de camions sur un ferry pour l'Angleterre. Et ce qu'on entend là, ce sont les CRS qui quittent les lieux au milieu d'une haie d'honneur. France Bleu Cotentin filme la scène. C'est donc un an après le début du mouvement. L'image est restée évidemment. Aujourd'hui, on s'en souvient. Des gilets jaunes applaudis par des CRS. Là encore, c'est la station locale de France Bleu, donc France Bleu Cotentin, qui immortalise la scène.
44 regards sur les gilets jaunes, l'image qui a marqué chaque France Bleu, région par région. La carte de France est sur francebleu.fr. Merci Léopold Strajnik.
Merci à vous.
Rédacteur en chef de France Bleu.
Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Tournier.
Et on poursuit avec une évasion dans les univers privilégiés des maisons d'écrivains avec un très bel ouvrage.
L'auteur de « Mes maisons d'écrivains » est attendu pour la visite. Où vivaient Zola, Balzac, Giono ou Claudel? Comment vivaient-ils dans leur demeure?
Ensuite, on va s'intéresser aux carrières d'officiers dans la gendarmerie, Denis.
Alors, on compte 7000 officiers dans la gendarmerie sur un effectif de près de 100 000 militaires. La gendarmerie recrute ce week-end.
Et on va terminer avec une histoire qui vous plaît.
Vous connaissez la comptine? Moi, je dors avec Nounours dans mes bras.
Non, je la connais pas.
Vous voulez une surprise tout à l'heure?
Avec plaisir.
Un chanteur que vous connaissez bien a chanté « Moi, je dors avec Nounours dans mes bras ».
Moi, vous êtes sûr? Moi? Non.
Vous allez être surprise.
Andy pour continuer avec les Rita Mitsuko sur France Bleu, bon début d'après-midi.
Hey Andy, hey Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez Andy quoi. Oh dis-moi oui. We'll be right back.
C'est ma préférée, moi, d'Erita Mitsuko Endy.
Et c'est une chanson qui ne se termine pas mal.
En comme, général.
Comme les
général.
Autres se terminent en général.
C'était très répété, cette désannonce. Rita Mitsuko.
C'est vendredi, Frédéric.
Oui, c'est vendredi. 13h17.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Quand on aime la lecture, on aime aussi souvent découvrir les univers intimes des auteurs qu'on affectionne. C'est ce que nous propose le livre sorti chez Stock, Mes maisons d'écrivains.
D'Aragon à Zola, nous poussons les portes des maisons où les plus beaux romans ont été écrits.
Et celle qui nous propose la visite, c'est l'auteur de Maisons d'écrivains. Elle est avec nous. Bonjour Evelyne Bloch-Dano.
Bonjour.
Vous souhaitiez quoi ? Relier les écrivains de leurs œuvres et des lieux qu'ils affectionnaient ? C'était ça la démarche ?
Oui, la démarche, c'était au fond un regard un peu subjectif, si possible, un peu original, qui mettait en relation l'univers d'un écrivain avec le lieu où il avait écrit, vécu, aimé, etc.
Ça en dit beaucoup sur un auteur, le lieu où il a vécu ?
Oui, comme sur n'importe qui, d'abord, pour commencer, hein, le lieu où l'on vit nous raconte tout de même. Et pour les auteurs qui, finalement, sont beaucoup chez eux et travaillent chez eux, ça peut être des pistes intéressantes. Et puis, ça fait travailler l'imaginaire aussi, et c'est une partie du plaisir.
Alors, nous sommes joueurs à une heure en France sur France Bleu, parce qu'on n'a pas compté combien il y avait de maisons d'écrivains, 100, 150, je ne sais pas.
Plus de 100, oui.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai dit à Frédéric, vous prendriez lequel ? Je ne sais pas quel auteur elle a choisi.
Alors, moi, j'ai choisi Jean Giono et sa maison de Provence, Evelyne Bloch-Dano.
Ah oui, alors écoutez, vous avez la malheureuse, j'ose dire, parce que c'est vraiment, en tout cas, c'est l'une de mes préférées.
Ah.
Vraiment, c'est cette maison du Paraïs, qui est déjà une adresse formidable, hein, montée des vraies richesses. Donc vous voyez, on est déjà dans
montée,
un univers...
Montée des vraies richesses. Ah oui, c'est beau.
Des vraies richesses,
d'accord.
C'est l'adresse. C'est joli, non ?
Elle ressemble à quoi, cette maison, alors ?
Écoutez, c'est une maison, finalement, je dirais, une jolie maison qu'on pourrait habiter. Voilà, c'est une maison familiale.
Mm-hmm.
C'est une maison assez simple, finalement, qui a une vue sur tout Manos, que vous voyez sur les toits, les églises, etc. Et adossée à la colline. Et qui a un charme, parce que c'est un charme, je dirais, naturel, au fond, cette maison. C'est pas un château, c'est pas non plus une chaumière. Il y a quelque chose comme ça qui vous enveloppe quand vous y entrez.
Est-ce que c'est là qu'il a écrit Le Hussard sur le toit, ou pas du tout ?
Oui, alors il a beaucoup écrit dans cette maison. D'abord parce qu'il a peu voyagé et qu'il est beaucoup resté à Manosque. Et bien sûr, cette vue, elle évoque absolument Le Hussard sur le toit, quand on est comme ça à la fenêtre.
Alors, j'espère que vous avez aimé la maison de Paul Claudel en Isère, parce que c'est mon choix.
Moi, elle a beaucoup moins aimé.
Beaucoup moins. Non, je plaisante.
Si, non.
Non, c'est intéressant parce que, aussi, quand même, je vais vous sauver. Non, ce qui est intéressant avec cette maison de Brangue, c'est que ça livre, au fond, un Claudel intime qu'on connaît pas. On a une image un peu figée de Paul Claudel, le grand poète, le diplomate, etc. Et là, surtout quand moi je l'ai visité, en présence de membres de sa famille qui m'ont accueilli, parce qu'ils l'habitent encore, enfin, ou ils y viennent encore en vacances. Donc c'est là encore une grande, alors c'est un château, mais au fond c'est plus une grande propriété qu'un château avec tourelle, etc.
Et vous avez avez déjeuné dans la cuisine, ce qui ne se faisait sans doute pas à la période de Paul Claudel.
Eh ben voilà, exactement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont nos contemporains et avec beaucoup de simplicité, n'est-ce pas ?
Vous avez mangé à l'office.
La cuisine. Voilà, j'ai mangé à l'office comme les domestiques. Mais pas toute seule, hein, le reste de la famille n'était pas installée dans la salle à manger. On m'avait pas relégué quand même dans la cuisine.
Evelyne Bloch-Dano, on picore selon nos coups de cœur pour certains auteurs ou on lit à la suite, on fait comme on veut avec mes maisons d'écrivains ?
Oh bah oui, c'est une promenade. C'est une promenade, donc il faut surtout pas... Moi, je les ai classés par ordre alphabétique, mais ça n'a pas tellement de sens de les lire par ordre alphabétique. Bon, l'ordre alphabétique, c'était simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, il faut les lire selon l'inspiration, dans n'importe quel sens. Et puis aussi un peu en fonction peut-être des lieux qu'on envisage de visiter, ou bien d'une région où on pense aller.
Eh bien, à ce propos, on peut lire le petit appartement de Boris Vian à Paris, puisque sa maison est visitable ce week-end, certes sur inscription, et ce sera le cas également dimanche prochain.
Evelyne Bloch-Dano, une dernière chose, vous nous avez dit que vous avez eu un coup de cœur pour celle de Jean Giono. Une autre, comme ça, une de vos maisons préférées?
Paul Claudel.
Non, à part ces deux-là.
je vais commencer à être gênée. Non, j'aime beaucoup la maison de Colette, ou plutôt de Sido, de sa mère, la maison qui a été reconstituée, enfin restaurée, et dont l'intérieur a été reconstitué, le jardin. Et cette fois-ci, on est dans Lyon, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Bourgogne. Et c'est une autre maison que j'aime beaucoup, mais il y en a plein. Il y a la maison de Malaparte à Capri, en a beaucoup, beaucoup.
Celle-là, elle est très belle.
Mes maisons d'écrivains d'Aragon à Zola, sous la plume d'Evelyne Bloch-Dano, aux éditions Stock.
C'est dans le mépris, hein, la Villa Malaparte.
Exactement.
Avec Brigitte Bardot.
Exactement. Merci. Avec Brigitte Bardot.
Merci Evelyne Bloch-Dano, on a appris plein de choses avec vous. Donc je vous recommande vivement mes maisons d'écrivains chez Stock. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci, au revoir.
Et on joue maintenant pour un casque audio Bluetooth. Dites-nous dans quel... Pardon, c'est à vous de le dire ça. Il est comment le casque?
Bluetooth.
Ah, vous faites tellement bien. Dites-nous dans quelle ville est né et a vécu Pierre Corneille. C'est dans le livre Mes maisons d'écrivains. Vous nous appelez au 0810 055 056. Et puis restez avec nous. Un beau programme nous attend. Les carrières d'officiers de gendarmerie à suivre.
Et les nounours.
Et les nounours. On sait que vous êtes impatients, Denis. On va en parler dans une heure en France.
Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où
si jamais je m'en vais.
Ça me rendrait mais tu iras où, où, où
si jamais je m'en vais.
Ça me rendrait.
Restez, bah oui, on est bien ensemble, restez au moins jusqu'à 14h. C'était Gims et Sting sur France Bleu avec Reste. Ce titre, vous le trouvez sur la compile des talents France Bleu qui vient de sortir.
Alors, profitons de cet instant pour donner la liste des 43 qui sont également sur les talents France Bleu.
Alors, j'ai pas les 43, mais j'en ai quelques-uns à vous communiquer. Il y a Angèle, il y a Clara Luciani, il y a Claudio Capéo.
Ah bah, ça en fait 3, ça.
Voilà, bah écoutez, vous aurez que ça. Bonjour Roselyne, bienvenue.
Bonjour.
Où êtes-vous Roselyne ?
En Charente.
Très bien. À Angoulême, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça.
Ok, Roselyne, très bien. Comment se profile ce week-end?
Bah écoutez, là, pour l'instant, la pluie s'est arrêtée, donc c'est déjà pas mal.
Ah, oui. Elle va revenir, hein.
Ouais, bon bah, du coup, et ben, comme je disais, je pense qu'on va aller faire les magasins avec ma fille.
Ah, sympa.
Et voilà, et puis je vais l'emmener poser des faux ongles.
Ah, très bien.
Sans indiscrétion, voilà. Elle a quel âge, votre fille?
Voilà, donc elle a 16 ans, donc c'est la première fois qu'elle va...
D'accord.
Ouais. Elle est toute contente, là.
Ouais, ben voilà, elle est impatiente, oui.
Elle a choisi la couleur?
Eh ben non, elle hésite encore.
Entre quoi et quoi?
Il y en a tellement. Bah entre un orange clair et puis un marron clair aussi, enfin. Voilà.
Marron, c'est pas mal avec l'hiver quand même. Moi,
ouais,
je suggérerais marron.
C'est ce que je disais, il y a des jolis marrons, effectivement.
Ouais. Corail, c'est plus printemps-été, Roselyne.
Ouais.
Ça dépend la couleur du chemisier ou du pull de verre aussi.
Mais pas du tout, c'est permanent.
Ah bon?
Ben, c'est, voilà, elle va pas changer tous les jours, du coup.
Ah bon, d'accord.
Il n'y a rien compris. Bon. Roselyne, on jouait pour un casque audio Bluetooth. Dites-nous dans quelle ville est né et a vécu Pierre Corneille?
Alors, il est né à Rouen.
Oui, c'est la bonne réponse, Roselyne. Vous connaissez Rouen?
Non, j'y suis jamais allée.
Très belle ville. Ça me donne l'occasion de saluer tous les collègues de France Bleu Normandie qui ont affronté des semaines difficiles avec Lubrizol, qui ont fait un travail remarquable. Et donc, je les embrasse tous, voilà.
Vous nous donnez la liste et leur nom?
Si vous voulez, mais en plus, je peux le faire. Annie Le Fléouter, Sylvain Geffroy, enfin, il y en a plein. Ils sont tous exceptionnels. Du coup, Roselyne, on vous envoie le casque audio Bluetooth et on vous envoie plein de bises avec.
Eh ben, moi aussi, plein de bisous.
Et pour la fille aussi, hein.
Ouais, voilà, ben, j'y manquerai pas. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir, Roselyne. Au revoir.
France Bleu. France Bleu présente Blue Eyed Soul. Baby. Le nouvel album de Simply Red. Simply Red, une voix toujours plus émouvante. Un nouvel album toujours plus funk. Blue Eyed Soul, le nouvel album de Simply Red. Disponible maintenant en CD et sur les plateformes digitales. Un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. Un message d'Agathe Le Caron.
Quand on est maman et qu'on anime la maison des maternelles, forcément on a envie de se mobiliser et de protéger les générations futures. Moi, Agathe, je recycle. J'ai commencé avec les produits de première nécessité, comme mon frigo. On ne réalise pas que notre vieux frigo contient des gaz qui ont 10 000 fois plus d'impact sur le climat que le CO2. Alors autant le dépolluer en France. Aucune excuse acceptée. Maintenant, c'est à vous d'agir. Plus d'informations sur écosystème.eco.
Écosystème, recycler, c'est protéger.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel.
Sur la route, soyez très vigilants. Paris et sa petite couronne sont en vigilance jaune. Il y a des risques de pluie, inondation et de neige verglas. Deux difficultés à vous signaler sur l'A86 extérieure. La première, c'est un camion en panne peu avant Rosny-sous-Bois et un peu avant au niveau de Nogent-sur-Marne. Il y a une voiture en panne. La voie de gauche est fermée à la circulation. Ces deux accidents vous ralentissent d'une vingtaine de minutes. Dans vos transports en commun, trafic perturbé sur la ligne J du Transilien. Entre Saint-Lazare et Pontoise jusqu'à 14h, après un problème d'alimentation technique dans le secteur de Saint-Ouen-l'Aumône. C'est compliqué aussi sur la ligne T11 du tramway, comptez une rame toutes les 20 minutes.
Vous avez déjà mis des faux ongles comme la fille de Roselyne, vous?
Vous êtes bien indiscret, non. Séné sur France Bleu, c'est Bonne et M. Et après, on vous parle des métiers, des officiers de gendarmerie avec des journées portes ouvertes. Restez avec nous sur France Bleu. Excellent titre. Un peu disco, on peut le dire, je pense, Denis.
Ah, on peut le dire carrément, le dire ouais. Ah, ouais. Période Daddy Cool.
Bonne AM, salut sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Non, mais comme vous avez été DJ, je préfère... J'aime bien le rappeler en plus. Allez, c'est en voyant passer cette journée d'information sur les carrières d'officiers de gendarmerie demain à Paris que nous avons eu l'idée de nous pencher sur les recrutements.
Est-ce que la gendarmerie peine ou pas à recruter après une année éprouvante en matière de maintien de l'ordre et qui peut prétendre à un poste d'officier ? Voilà des questions que nous nous posons.
Oui. C'est un major de gendarmerie que nous invitons ce midi. Bonjour Pascal Dessin.
Oui, bonjour. Écoutez, dans un premier temps, je vous remercie de nous recevoir sur votre antenne.
Mais je vous en prie. Est-ce que le recrutement des gendarmes ou d'officiers de gendarmerie suit l'actualité ? Est-ce que vous avez moins de candidats quand les gendarmes sont très sollicités, comme c'est le cas depuis quelques mois ?
Non, il n'y a pas forcément moins de candidats. Néanmoins, il y a toujours un besoin d'information, parce que nos métiers sont tels divers et variés. Qu'il y a effectivement un besoin d'informer les candidats sur toutes les possibilités donc de métiers qu'ils peuvent avoir au sein de la gendarmerie, et notamment pour les officiers, puisque nous sommes actuellement en pleine campagne d'inscription donc pour le concours. Hein. Je rappelle que ces campagnes d'inscription se termineront le 13 janvier 2020. Donc bon voilà, il nous a été jugé intéressant d'effectuer justement une journée d'information sur ces métiers.
Mais Major Dessin, justement, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les carrières d'officiers dans la gendarmerie, si on se présente, si on a envie de renseignements, vous nous répondez quoi ?
Oui, alors, bon, elles sont variées, puisque nous avons des officiers qui sont destinés au commandement opérationnel, c'est donc bien sûr ceux qui vont commander des unités de terrain, mais il y a également les métiers qu'on connaît un peu moins, les métiers du soutien opérationnel. Ce sont donc des officiers qui sont destinés à occuper des postes dans des pôles d'expertise, par exemple. Je pense, par exemple, à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Je rappelle que cet institut est chargé d'apporter des preuves scientifiques lors d'enquêtes criminelles, mais également ceux qui pourraient servir au centre de lutte contre les criminalités numériques. qui est en charge donc de la cybercriminalité et qui mène des investigations donc d'ampleur nationale et internationale. Donc en fait, les profils sont vraiment vraiment variés. Hein, on recherche bon des ingénieurs ou des étudiants titulaires d'un master 2 de cybersécurité. Ça peut être les systèmes d'information communication, l'intelligence artificielle, mais également tout ce qui est chimie analytique, chimie organique, oui. biologie, etc. Vraiment, on a
Il y a une large palette,
Oui, tout à fait.
Est-ce que on imagine un peu les jeunes qui viennent à votre rencontre, comme ce sera le cas à la caserne Place de la République ce week-end à Paris. Est-ce qu'ils font tous ces jeunes la différence entre un gendarme et un policier, entre le militaire et le fonctionnaire?
Alors, pour la plupart, oui, parce que ceux qui viennent se sont déjà intéressés aux carrières éventuelles. Donc, oui, pour la plupart, ils font la différence.
Est-ce qu'il faut être les qualités qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut être rigoureux, motivé aussi? On l'imagine.
Oui, tout à fait. Alors, pour embrasser une carrière d'officier, effectivement, il faut pas mal de qualités, hein, notamment des facultés d'adaptation, hein, puisqu'un officier, au cours de sa carrière, est amené à changer régulièrement de poste. Il faut également faire preuve de disponibilité, hein, puisque bon, comme dans d'autres administrations d'ailleurs, il est amené à travailler le soir, le week-end, le sens des responsabilités, hein, puisqu'il lui faudra prendre des décisions importantes, être capable d'initiative et surtout aimer le contact avec la population. Je pense que ce sont les principales qualités, même si je pense qu'il y en a encore d'autres.
Et quel niveau d'études précisément vous demandez pour commencer une formation d'officier?
Alors, le concours est à partir de Bac plus 5, donc tout ce qui est Master 2, diplôme d'école d'ingénieur ou diplôme d'école de commerce. Alors, il ne faut pas, bien sûr, absolument être titulaire du diplôme au moment où je veux m'inscrire. Tous ceux qui sont actuellement en dernière année d'études, en Master 2, peuvent s'inscrire. La seule chose, c'est qu'il leur faudra être détenteur du diplôme au mois d'août, au 1er août 2020, lorsqu'ils vont intégrer l'OGN, en cas de réussite, bien sûr, au concours.
Major Dessin, est-ce que c'est important de transmettre? C'est pas forcément ce qu'on vous demande dans vos métiers, mais c'est vrai qu'avec ces journées portes ouvertes, il y a une transmission.
Oui, tout à fait. On voit beaucoup de jeunes qui viennent chercher l'information et parfois sont accompagnés des parents. Donc transmettre les valeurs de l'office et de la gendarmerie, c'est important de transmettre. Oui.
Et nous, on en profite aussi pour réviser et pour donner quelques informations. Major, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que les gendarmes interviennent en zone rurale et les policiers en ville, ou c'est moins vrai qu'avant?
Alors, la gendarmerie, il faut le savoir, intervient quand même sur 95% du territoire national, parce qu'effectivement, nous sommes en charge des zones périurbaines, et le prolongement, bien sûr, des grandes métropoles, et des zones rurales, ce qui représente 95% du territoire national, que ça soit sur le territoire ou département et collectivité territoriale, et on a en charge, bien sûr, ce qui représente 50% de la population.
Devenir officier de la gendarmerie, une journée d'information se déroule demain samedi à la caserne Vérines, place de la République à Paris, et régulièrement dans toute la France, vous pouvez vous renseigner.
Merci Major Dessin d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Voilà, je me permettrai juste de rajouter donc c'est de 10h à 17h, et qu'il faut être muni d'une pièce d'identité.
C'est noté. Merci Major, bonne journée.
Toutes les informations, si je peux encore me permettre, dans toutes les informations, vous pourrez le retrouver sur le site, sur le compte Facebook, où on a mis toutes les conférences en ligne, et les différents officiers qui viendront donc présenter cette journée.
Merci à vous. Merci, bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Et nous jouons pour un support de téléphone portable France Bleu. Dites-nous, combien y a-t-il de gendarmes en France? Près de 100 000 ou près de 200 000 à votre avis? Combien y a-t-il de gendarmes en France aujourd'hui? Près de 100 000 ou près de 200 000?
C'est une bonne question que vous posez.
C'est pas vous qui me l'avez filé ce matin. On vous dit tout. C'est Clara Luciani maintenant avec Nu, c'est son dernier titre et on sait que vous l'adorez.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regarde-moi, tu vois, j'ai enlevé mes bijoux et moi qui.
faire. Mon héroïne ou un blessé de guerre. Cette vie que j'habite parfois me dépasse, parfois est trop petit. Peur que ma chance me quitte. Je cours partout, je m'ennuie vite.
Clara Luciani sur France Bleu, là aussi, hein, vous pouvez la retrouver sur la compile des talents France Bleu 2019, coffret de 3 CD. Bonjour Marilène, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Grenoble, Marilène.
Voilà, en fait, je travaille juste à côté sur un campus universitaire.
Vous voulez dire à Saint-Martin d'ailleurs.
Voilà, exactement.
Marilène, vous avez eu un peu de neige, un peu de flocons ou pas du tout?
Alors, sur les montagnes, oui, je vois qu'il y en a sur la chaîne de Belledonne, hein, qui est juste en face de mon bâtiment. Et sinon, vers minuit, là, avant d'aller me coucher, les flocons étaient énormes sur Grenoble.
Ouais.
Mais ce matin, non, juste un petit peu sur les toits.
Vous êtes couchée tard, Marilène, hein. Je dis ça, je dis rien.
Voilà.
Marilène, on joue pour un support de téléphone France Bleu. Combien de gendarmes y a-t-il en France, selon vous, près de 100 000 ou près de 200 000?
Oui, près de 100 000.
Mais oui, comment vous savez ça?
En écoutant.
En nous écoutant, c'est
voilà.
Très bien. Eh bien, c'est la bonne réponse. On vous envoie le support pour téléphone portable France Bleu. Et on vous souhaite un bon week-end. Vous allez faire quoi de votre week-end, Marilène?
Eh bien, je vais aller faire une course à pied proche de Chambéry, entre Chambéry et Albertville, en fait, direction Albertville. Ça s'appelle Saint-Pierre d'Albigny.
Ouais, d'accord.
Voilà, il y a des jolies courses pour tous les niveaux, des petites, des 10 km et des 30 km.
Dans la combe,
la petite.
Dans la combe de Savoie, c'est magnifique.
Ah oui, je connais pas justement, alors je vais aller voir.
Bah, va falloir vous couvrir, hein, Marilène, parce qu'il va faire froid.
Oui.
On vous envoie votre cadeau, on vous fait plein de bises.
Mais je vous remercie beaucoup, à bientôt.
À bientôt, bon week-end, Marilène, au revoir.
Moteur. Se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Dou 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 dou, si soit-il. Yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Tout, 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 ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires et plus tard les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tout, 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 ainsi soit-il. Yeah. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Tout, tout,
des choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit dit. Tel est le nom du film. Trapling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il.
Alors, ce que vous entendez, ce n'est pas l'hélicoptère de la fin de la chanson. C'est Denis Farou qui s'est lancé dans...
J'ai essayé de faire l'hélicoptère.
C'est pas mal.
Mais quel est le nom du film?
Ainsi soit-il. Écoutez, le vrai hélicoptère arrive. Est-ce qu'il sera aussi bien que le vôtre?
Je te
vois. Je préférais le vôtre. Louis Chédid, mais merci pour cette imitation. Louis Chédid, Ainsi soit-il sur France Bleu.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
On sent un petit peu que c'est vendredi. Allez, avec qui on s'endort quand on est petit? À qui confier ses secrets d'enfant sinon à lui? Voici la naissance et l'histoire des nounours, des ours en peluche.
Moi je dors avec nounours dans mes bras. Chaque soir je lui parle tout bas. Je lui raconte tous mes petits chagrins. Plus je m'endors, sans plus penser à...
C'est Karine et Rebecca, deux sœurs belges de 4 et 5 ans qui chantaient Nounours dans les années 60.
Et c'est un arctophile que nous recevons, donc un collectionneur de nounours, qui habite dans le Gard à Uzès et auteur d'un livre sur les ours en peluche. Il est là. Bonjour Eric Petit.
Bonjour.
Alors certains disent que l'ours en peluche vient des États-Unis, le teddy bear américain. Mais il y a plus ancien visiblement en Europe, Eric Petit.
Alors, c'est pas faux, mais effectivement, l'histoire de l'ours démarre en Europe en 1902 avec une célèbre couturière, poliomyélite Margaret Steiff, qui fut la première à proposer l'idée de décliner un ours sous forme de peluche pour les enfants. Cette célèbre couturière, célèbre parce que elle avait beaucoup de mérite pour à l'époque,
avec sa maladie. Mérite,
ouais, exactement. Elle participe un jour à la foire de Leipzig, la foire internationale du jouet, où elle présente 3-4 modèles d'ours. Les industriels du jouet se moquent d'elle parce qu'ils disent cet animal rencontrera jamais de succès auprès des enfants. Il est trop féroce et trop casanier à l'état naturel pour que ça puisse intéresser les parents pour l'achat pour leurs enfants. Et en fait, en fin de journée, un industriel américain lui commande 3000 ours.
D'accord.
Et oui, 3000 ours. Ouais, donc ouais. C'était plutôt inattendu. Et lorsque donc il a fallu fabriquer ces ours, et ces ours arrivent aux États-Unis au mois de octobre 1902. Et c'est là que l'histoire du Teddy se précise, parce que ça correspond aussi à une époque où le président des États-Unis, très populaire, Theodore Roosevelt, est relaté dans le Washington Post un article qui propose de raconter l'histoire, un parcours de chasse du président, une journée infructueuse, et on lui propose en fin de journée de tirer sur un ourson qu'on a attaché à un arbre. On est compte?
C'est horrible.
Et en fait, c'est une gravure qui est là et qui illustre l'article. Et dès que les ours sont arrivés aux États-Unis, ben on a eu l'idée de ce slogan, l'appeler le Teddy Bear, comme était intitulé l'article pour le président américain.
Qu'est-ce qu'elle est belle, cette histoire américano-européenne.
Eh ben ouais, hein, pas
et,
mal. Hein.
Et alors, vous avez combien d'ours en plus, vous, Eric Petit? Est-ce que vous savez déjà?
J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Un peu plus du millier.
Ah oui, quand même. Et ils sont, oui. Chacun est différent, chacun a son histoire.
Chacun a son histoire, c'est sûr. Ils peuvent être différents en fonction des époques, de leur époque de fabrication, puisque la fabrication, il y a eu une évolution de fabrication des patrons, de la morphologie, des matériaux de rembourrage, des supports de peluche. C'est ce qui crée l'intérêt, hein, la diversité. Et puis, chacun est différent parce que chacun renferme son histoire.
Mais vous êtes nombreux, les arctophiles, puisqu'on vous appelle comme ça, les collectionneurs de nounours, à votre avis?
Nous sommes en France, nous sommes
quatre.
Nous sommes nombreux.
Oui, ah bon,
oui,
nombreux.
Nous sommes nombreux, moins que dans les pays nordiques, que ce soit en Hollande, que ce soit en Finlande, en Angleterre, et puis en Allemagne, ils sont toujours très férus par les ours et notamment par les traditions de fêtes de Noël qui sont toujours très achalandées en peluche.
Éric Petit, est-ce qu'on peut les voir, vos ours en peluche, un millier au moins? Est-ce que votre maison est ouverte à la visite ou pas?
Alors, non, parce que j'aurais pas des conditions de sécurité nécessaires et suffisantes pour pouvoir accueillir des personnes chez moi. Mais par contre, je propose et des conférences et une exposition qui s'appelle « La fabuleuse histoire des ours en peluche » qui peut être mise en place pour des communautés des communes, des musées, par exemple. Éric. Ça a été le cas au musée de Saint-Maur-les-Fossés, par exemple.
Oui, on a vu passer ça. On a vu passer ça.
Où on apprend tout sur l'ours en peluche.
Voilà. Mais moi, j'en parlerai toute la journée.
Éric Petit, est-ce que vous saviez que Salvatore Adamo avait chanté « Moi, je dors avec nounours dans mes bras » ?
Il paraît.
Eh, on vous fait ce cadeau.
Moi, je dors avec nounours dans mes bras. Chaque soir, je lui parle tout bas. Je lui raconte tous mes petits chagrins. Puis je m'endors sans plus penser à rien.
Ah, j'adore. Vous la connaissiez, du coup, Éric Petit, ou pas?
Pas du tout.
On est ravis de vous faire découvrir. Vous nous avez fait découvrir l'histoire de nos nounours, Éric Petit, et nous, on vous fait découvrir la version
Adamo.
Merci
beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Et puis, très bonne journée avec tous vos ours.
Oui. Bonne continuation pour votre émission. Merci.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me
Rolling in the Deep, c'était Adèle pour refermer cette heure passée ensemble en France. Denis, s'est passé beaucoup de choses, mais je crois que ce qui vous a le plus marqué, c'est sans doute les nounours, non ?
Oh ! Oh, les nounours !
Et le matin, c'est moi qui le réveille, et bien qu'il me fait la sourde oreille.
Adamo qui chantait les nounours, on a eu le spécialiste des nounours depuis Uzès dans le Gard.
Un grand collectionneur, on a parlé aussi des métiers d'officier de gendarmerie.
Et puis, que ma joie demeure avec votre choix sur Jean Giono pour la Maison des Écrivains, Frédéric.
Et on rappelle aussi la carte France Bleue avec l'anniversaire des Gilets jaunes, 44 articles en lien avec un souvenir des Gilets jaunes.
Vous êtes parfaite, Frédéric.
Je vous remercie.
À lundi.